La science CQFD, Natacha Trioux.
Écoutez l'ambiance sonore du Paris du XVIIIe siècle ou celle à l'intérieur d'un temple de l'Antiquité égyptienne. Ce sont les promesses de l'archéologie des paysages sonores. Comment cette nouvelle discipline hybride est-elle née ? L'archéologie musicale existe depuis le 19e siècle, mais l'archéologie du son, elle, est beaucoup plus récente. Si nos environnements sonores du quotidien sont essentiels, historiquement, nous nous sommes toujours plus intéressés à la dimension visuelle des sociétés. Restituer ces paysages acoustiques vieux de plusieurs siècles nous permet de comprendre autrement notre passé. Cette nouvelle discipline, à la croisée des sciences humaines et de l'ingénieur, nous offre une perception de l'histoire complètement différente. Archéologie des paysages sonores et que chacun se mette à fouiller. Mylène Pardoen, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être ici et d'avoir honoré notre invitation. Vous êtes archéologue du paysage sonore, ingénieur de recherche au CNRS à la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Étienne, créatrice et coordinatrice du projet Héphaïstos, médaille de cristal du CNRS en 2020. Sybille Emérite, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, chargée de recherche CNRS au laboratoire Histoire et Sources des Mondes Antiques et ancien membre scientifique de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire. Merci à vous deux d'avoir accepté donc notre invitation en direct ici dans nos studios à France Culture et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste ou votre appli Radio France. Je vous invite aussi à faire un tour sur Twitter, sur X, sur notre fil à Science CQFD. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour compléter et enrichir votre écoute. C'est tout de suite avec notre live tweet. Comment écouter le paysage sonore des villes et des monuments du passé? Quels en sont les indices sonores? Quelle est la méthodologie et les outils que propose cette discipline? Et comment retrouver un savoir-faire musical qui a disparu? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence par notre archive du jour, où comment toute la diversité acoustique d'une grotte entre en ligne de compte pour le travail d'un préhistorien? Nous sommes en 1989.
Dans une approche du monde sonore souterrain, il y a ce que je pourrais appeler la reconnaissance acoustique qui va se faire essentiellement à la voix. Et c'est une approche, une sorte de découverte de la résonance du lieu. Et en cela, il faut bien distinguer la résonance de l'écho. La résonance, c'est quand on émet un son très faible, en général, à bouche fermée la plupart du temps, et que la configuration du lieu permet que ce son soit amplifié. À ce moment-là, on a l'impression que tout l'air vibre, que soi-même vibre. C'est une impression psychoacoustique intense quand le lieu s'y prête. Alors, je dois dire tout de suite que tous les lieux de grotte et toutes les grottes n'ont pas les mêmes caractéristiques acoustiques.
Bien sûr.
Le portel, de ce point de vue, est privilégié et il ne faudrait pas prendre ces travaux de tout début, qui sont une approche, un rideau que l'on soulève, comme une modélisation de ce qui peut se passer dans d'autres grottes. Pas du tout. Je connais bien d'autres grottes qui sont mates, qui ne sonnent pas, et pourtant là il y a aussi bien des figures ou des signes. Je connais aussi des endroits très sonores, des niches excessivement sonores et où il n'y a strictement rien. Donc on ne peut pas inférer obligatoirement, tel qu'il pourrait apparaître d'une lecture un petit peu rapide du texte, il n'y a pas obligatoirement à partir d'un bon lieu sonore des figures ou à partir d'un lieu de figure le son.
Voilà la voix de Michel Dauvois, préhistorien dans l'émission archéologique sur France Culture en 1989. Mylène Pardoen, on l'entendait parler de l'importance de l'impression psychoacoustique d'une grotte.
Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les lieux sans exception ont leur typicité, leur personnalité quelque part. Et ils ont une personnalité à la fois acoustique et une personnalité d'ambiance sonore. C'est-à-dire, comme j'explique souvent, c'est que l'acoustique, quelque part, c'est le flacon en cristal, et puis l'ambiance sonore, c'est le nectar qui est à l'intérieur et qui va faire vibrer. L'un sans l'autre, quand on restitue un paysage sonore, l'un sans l'autre, c'est compliqué. Donc, chaque En intérieur, comme ici par exemple, ben, si on avait à restituer, on devrait prendre en compte sa personnalité et la personnalité de tous les éléments qui sont présents.
La typicité acoustique. Sybille Émérite, vous aussi vous êtes très sensible au son du quotidien, et même là, une émission de radio qui, d'il y a 30 ans, n'a pas le même son qu'une émission de radio aujourd'hui.
Ah, complètement, et c'est là où on se rend compte que le son est vraiment une construction culturelle, hein, qui répond à des besoins quotidiens, et à quel point on est imprégné finalement dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la mort en fait, par un ensemble de sons qui vont marquer notre existence et qui participent d'une construction de la société.
Alors, l'archéologie du paysage sonore, comme je disais, l'archéologie musicale, ça existe depuis un certain temps, mais l'archéologie du paysage sonore s'est apparue avec vos travaux pionniers sur le projet Bretèze que vous avez mené, Mylène Pardoen. On y reviendra, mais quelle définition vous donnez à cette discipline ?
Alors, l'archéologie du paysage sonore, c'est l'étude et l'analyse des paysages sonores du passé. Et puis, ben, d'un seul coup, on va faire un grand bond dans le temps et on en propose des modèles audibles. Donc la recherche dans le passé, elle se fait sur au sein de d'éléments et de documentation hétérogène, pardon, donc textuelle ou visuelle, voire des documents mixtes, c'est-à-dire qui mixent à la fois le texte et l'image. Et puis dans ces documents textuels ou visuels, ben, tous les documents sont bons. En fait, on a beaucoup plus d'informations sonores que ce qu'on pourrait le penser.
Sybille Émérite.
Alors, en fait, là, on peut faire remonter la création, en fait, du terme, la notion de paysage sonore à un compositeur qui s'appelle Murray Schafer en 1967, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Tuning of the World et qui a beaucoup marqué la communauté scientifique, puisque justement, lui, ce qu'il craignait, c'était la disparition des sons et des bruits de la vie quotidienne dans un monde où qui devient de plus en plus trop sonore et qui écrase les autres sons. Et cette notion a été reprise d'abord par les ethnomusicologues et les anthropologues qui ont permis aussi d'avancer sur le fait que finalement on s'est intéressé justement qu'à la musique, mais la musique c'est déjà une dimension esthétique, et finalement le fait de s'intéresser au son, ça permettait d'envisager autrement les phénomènes sonores et la manière dont ils sont perçus dans une société. Cette notion a amené énormément de débats au sein de des scientifiques, et c'est finalement les historiens, avec Alain Corbin en 1994, qui se sont emparés de l'histoire du sensible à travers un ouvrage qu'il a écrit sur les cloches de la Terre, hein, la manière dont les cloches au XIXe siècle pouvaient marquer le quotidien dans les campagnes françaises. Et par la suite, ça a été repris par les modernistes, par les médiévistes et finalement par les antiquisants, pour voir à partir de ce principe même du paysage sonore, qui, bon, disons que c'est un terme qui est parlant pour tout le monde, mais qui, d'autres ont préféré parler de milieu sonore, parce qu'il y a déjà une dimension esthétique dans le paysage qui fait appel à la vue, en fait.
Justement, que recouvre le terme paysage sonore, par opposition à paysage visuel, Mylène Pardoen?
Un paysage visuel, c'est quelque chose de tangible. C'est-à-dire que vous pouvez accrocher votre œil et donc mémoriser des points bien précis dans une aire géographique qui est en face de vous. Le paysage sonore, ça fonctionne pas du tout comme ça. En fait, le son, c'est du temps, de l'espace et de l'espace-temps. Donc ça s'écoule comme l'eau sous les ponts. Ce qui fait que là, le moment que l'on est en train de vivre, il est unique. Il y a que si on l'enregistre, on va pouvoir le fixer quelque part. Enfin, le fixer mobile, hein, mais on va pouvoir le mettre sur un support. Si on le refait, ça sera jamais le même. Et c'est ça qui fait la typicité d'un paysage sonore. C'est cette matière que je trouve fabuleuse. C'est une matière, un genre barbapapa, impalpable, qui vit tout le temps.
Mais ce qui est sensible pour nous ne l'est pas forcément pour notre voisin, Sybille Émérite. En termes de son, il y a aussi cette notion de la perception et de la perception individuelle, personnelle.
Oui, parce qu'en fait, on pourrait imaginer, puisqu'on est tous dotés a priori d'un système auditif, qu'on entend tous la même chose. Et en fait, c'est pas vrai. On s'aperçoit quand on voyage, qu'on passe dans un pays ou dans un autre, on est sensible à d'autres sons. Et même les onomatopées pour décrire les sons des animaux vont changer d'une culture à l'autre. Et c'est pour ça que moi, je sais pas si on peut vraiment parler de discipline. Je parlerais plutôt de problématiques de recherche qui vont finalement s'intéresser, je dirais, à tous les types de chercheurs qui font de la musicologie, qui font de l'acoustique, qui travaillent sur le cerveau d'un point de vue cognitif, ou alors les historiens. Enfin, finalement, ça touche une très grande communauté et ça fait appel à plein de techniques différentes, en ce qui nous concerne, de travailler sur les sources historiques, mais aussi, évidemment, ce que vous avez déjà dit, Mylène Pardoen, aux nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui, enfin depuis récemment dans l'histoire de l'humanité, d'enregistrer les sons et les conserver.
Un paysage sonore, Mylène Pardoen, ça contient de la biophonie, de la géophonie et de l'anthropophonie. On peut peut-être décrire un peu ce que sont ces trois composantes.
Alors tout à fait, un paysage sonore, c'est, on va dire, schématiquement, trois grosses couches. La première, c'est ce que, quand on va le restituer, ce que j'appelle moi le fond de source, c'est la géophonie. C'est tous les bruits et les sons qui sont attenants à un lieu. Ah, par exemple, c'est l'exemple de la grotte. C'est quelque chose qui est là, qui est présent et qui va donner du relief à tout le reste. Si vous êtes dans une vallée et que vous avez un petit cours d'eau, ben vous avez le cours d'eau plus le vent. Donc tous les éléments météorologiques participent à cette géophonie. Juste au-dessus, c'est la biophonie. Alors là, il y a un petit peu de divergence parce que c'est normalement tous les bruits et les sons des animaux et des insectes. Et certains mettent tous les êtres vivants. Donc ça veut dire que nous, on est dans la biophonie. Et puis la dernière, c'est gros pollueur, c'est l'anthropophonie, c'est tous les bruits et les sons qui sont générés par les humains. Donc c'est à la fois la mécanique, mais ça peut être le bruit des conversations, voilà, tout ce qui est généré par l'humain. Les sémiologies, tout ça.
Sybille Mérite.
Oui, alors en plus des sons générés par l'humain, j'avais été très frappée par un exemple récent justement d'une personne qui avait fait une enquête dans la jungle et qui montrait aussi comment les animaux oui. avaient des stratégies pour essayer de se faire entendre au milieu oui. d'une cacophonie générale pour nous et s'envoyer des messages en fait.
Et même en anthropologie, certains travaux menés sur les gares en Inde montrent que même si on a l'impression d'un grand ohu-bohu en tant qu'occidentaux qui débarquent là-bas, il y a en fait des crieurs et chacun sait parfaitement à quel moment il doit placer sa voix pour en parallèle à ce que vous venez de dire.
Oui, tout à fait. Ce sont les travaux que mène Christine Guilbeault, qui est ethnomusicologue en Inde et qui a réussi justement à mettre en évidence que finalement, en dépit des apparences, il y a énormément d'interactions sociales qui ont lieu dans les gares, sur les places, sur les marchés. Et que tous ces sons du quotidien, en fait, ils ont une stratégie pour se faire entendre.
Comment ? En fait, chaque son est significatif. Et c'est ce qu'on a oublié, nous, aujourd'hui, dans nos sociétés. C'est un son, il dit quelque chose, il raconte, il informe. Et aujourd'hui, pour nous, à part le klaxon ou certaines sirènes, on a bien oublié le travail de nos oreilles. Que d'autres peuples, d'autres personnes dans d'autres pays, eux, fonctionnent très très bien.
Mais comment justement l'archéologie des paysages sonores se distingue-t-elle ou est-elle liée à ce qu'on appelle aussi les sound studies ?
Non, je ne pense pas qu'elle se distingue. Elle en fait partie. Mmh. En fait, sound studies, c'est un terme anglais. Et puis nous, on est bon français, donc voilà.
En fait, le terme anglais qui a été utilisé d'abord, c'était le Soundscape Studies, qui a effectivement ouais. été traduit par paysage sonore. Et finalement, il y a une autre étude plus récente qui a été traduite en 2013 en français par Jonathan Stern sur la modernité ouais. Justement du paysage sonore, qu'on a appelé justement Sound Studies, et que lui, justement, a arrêté de différencier différents types de sons, puisqu'il a travaillé justement sur la modernité sonore, en quoi ça modifier nos sociétés, d'utiliser tout simplement l'enregistrement. Et à partir de là, le terme de sound studies, soundscape studies a tendance à disparaître pour garder sound studies qui est opposé au visual studies.
C'est ça.
Tout à fait, je confirme.
Alors, c'est le premier projet de cette nouvelle voie, c'est le projet Bretèze en 2014 qui a permis d'établir les cadres et les méthodologies structurantes de cette discipline. On va voyager dans les ambiances sonores du passé, restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, nous parlons d'archéologie des paysages sonores avec deux archéologues, Mylène Pardoen et Sybille Emérite. Nous venons de voir qu'il s'agit d'une nouvelle discipline qui se situe aux confins de plusieurs autres, à la fois des sciences humaines, histoire, urbanisme ou sociologie, et des sciences de l'ingénieur avec tout ce qui touche à l'informatique et aux restitutions virtuelles. Au départ, Mylène Pardoen, vous avez commencé par la musique, vous êtes docteur en musicologie, votre thèse porte sur les musiques militaires d'avant le 19e siècle, puis vous avez eu l'opportunité de sonoriser des des plans de bataille pour le musée des Invalides, et c'est comme ça que tout a commencé pour vous.
Oui, oui, je vais dire bêtement, mais oui, c'est un, c'est un coup du sort. En tant que musicologue, j'ai travaillé sur les musiques militaires, et je précise bien les musiques militaires, puisque c'est un patrimoine qui est très très riche. Il n'y a pas que les sonneries, les batteries d'ordonnance, il n'y a pas que les marches. C'est vraiment surtout antérieur au 19e siècle, on a un patrimoine qui est très très riche. J'ai donc eu l'opportunité de travailler à la sonorisation de plans de bataille lors de la restauration de l'aile Orient du musée des Invalides. À l'issue de cette expérience, où moi j'ai trouvé ça fabuleux, je me suis posé une question bête. Bon, pourquoi pas de son dans les musées? En fait, c'est venu comme ça. Pourquoi pas de son dans les musées? Et comme les musées ont une part scientifique très importante, ils ont une mission scientifique très importante, je me suis dit, bah moi je suis scientifique. Donc je peux peut-être répondre à cette non-demande, puisque c'était une non-demande, je peux peut-être répondre à cela pour commencer à travailler sur un projet. Et puis ensuite, ça a été un coup de foudre entre l'ouvrage Le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, qui a matché avec un plan tridimensionnel, le plan en Bretèze, et le plan Turgot, hein, Bretèze étant le nom de l'ingénieur qui a levé ce plan. Ça a matché et j'ai commencé à travailler. Moi, dans ma grande folie, je voulais faire tout Paris. Non, mais moi, je suis un peu comme ça. Donc, je voulais faire tout Paris, puis là, tout de suite, on m'a dit « Ouh là là, non, tout Paris, c'est trop grand, il faut réduire la zone. » En effet, assez rapidement, je me suis rendu compte que pour chaque projet que l'on fait de restitution d'un périmètre, il faut délimiter un premier périmètre d'études fonctionnelles. C'est relativement étroit, on va dire. Et puis, ça nous permet d'étudier un périmètre plus large, parce que par porosité, on va avoir des sons qui vont arriver, parce que le son, ça court, hein, ça circule. Et puis, ça permet aussi de délimiter un périmètre temporel, parce que même si quand on étudie l'histoire, on est dans du temps long, il y a quand même des fractures qui apparaissent de temps en temps, il faut éviter quand même de mettre une mobilette au XVIIIe siècle.
Là, quand vous dites limiter une limite temporelle, c'est sur 50 ans, c'est ça?
Ah ben non, pas toujours, ça dépend. Hein.
Mais là, pour le projet, justement...
Alors pour le projet Bretèze, oui, on est plutôt dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Après, ça dépend en fonction des sources que l'on va trouver. Donc, ce projet Bretèze, il est avant la Révolution française, très exactement avant 1790, parce que lorsqu'il a fallu faire écouter le premier jet de mon travail, personne ne comprenait. Et c'est là où je me dis qu'aujourd'hui, il y a vraiment un très grand progrès, puisque je peux faire écouter mes travaux sans qu'il y ait un support visuel. Pour Bretèze, j'ai dû passer par le support visuel pour expliquer ce que je faisais écouter. Tout ça pour bien expliquer ce dont on n'a pas forcément creusé tout à l'heure, mais c'est les clés d'écoute. Si on n'a pas les clés, c'est dans notre mémoire. Si on n'a pas entendu un bruit, un son qui match dans notre mémoire, c'est difficile de le visualiser, de le comprendre et de contextualiser ce son.
Et donc justement, on va essayer de comprendre un peu mieux ce projet Bretèze, hein, cette restitution sonore historique du quartier du Châtelet à Paris au XVIIIe siècle. Tendez l'oreille, on peut entendre le paysage sonore de la vie quotidienne parisienne de l'époque. Voilà, il a fallu 10 ans de recherche pour que cette première séquence de restitution sorte en 2014. Là, celle qu'on vient d'écouter, c'est la 21e version.
Non, celle qu'on vient d'écouter, c'est la 19e version.
19e version,
je travaille sur la 21e qui n'est pas audible puisqu'elle est en immersion. Donc, on a une salle immersive à la MSH et on diffuse sur 46 haut-parleurs. Donc là, c'est... On en a tout autour.
19, 21 versions. Ouais. On voit que c'est des projets qui sont en constante évolution. Mais Sybille Emérite, Mylène Pardoen, quelle est la méthodologie, les outils pour proposer des reconstitutions sonores de ce type? Quelles sont les étapes?
Alors, la première étape, c'est la grande enquête dans le passé. Alors moi, je suis super inspecteur gadget, là. Je prends une casquette, hop, je pars dans le passé. Je vais commencer à fouiller toutes les archives que l'on peut avoir. Et si j'ai pas forcément l'information, je vais passer par des collègues qui sont pas de ma discipline, donc historien, sociologue, géographe, urbaniste. Et puis, je vais commencer à récupérer de l'information. Donc, trois types d'indices. Le premier indice, je vais faire simple, vous voyez un chien, le chien, il aboie. Indice de premier niveau. Indice de second niveau, par exemple, là, ce que l'on vient d'entendre, on arrive sur la place du Grand Châtelet au XVIIIe siècle. Cette place du Grand Châtelet, il y a un marché. Et c'est un marché plein vent. Donc il faut simplement chercher ce qu'est un marché plein vent, c'est un marché à la volaille. Et puis un indice de troisième niveau, c'est par exemple, on a un métier qui est exercé. Donc le métier qui est exercé, on va chercher les outils et puis on va chercher aussi la matière. Donc c'est tous des fils qu'on va rechercher. Ça, une fois qu'on a toute cette matière-là, on va faire une sorte de gros millefeuille avec tous nos plans et nos objets sonores dessus. Et on va faire une enquête dans le présent cette fois-ci. Donc deuxième enquête, hop, je change de casquette. Et accompagné avec un ingénieur son, on va pister les sons du passé qui sont encore dans notre présent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on entend, c'est des vrais sons. C'est pas du bruitage et c'est pas non plus du sound design. Un son qui a disparu ou que je n'ai pas trouvé, je ne l'insère pas dans la fresque. Donc à partir de là, on va enregistrer à la fois le geste et la matière pour avoir quelque chose de bien dense. Et la restitution, ce que vous avez entendu là, c'est plusieurs centaines d'objets sonores. J'ai reconstitué les trois couches, géophonie, biophonie et anthropophonie, pour que ça soit de cette densité-là.
Je propose d'ailleurs de le réécouter maintenant que vous nous avez donné cet éclairage pour voir justement toute la densité de travail que ça représente. On comprend bien que vous êtes une détective dans le passé et dans le présent. Ce que vous dites aussi, c'est il s'agit aussi de reconstituer le bruit des outils de l'époque, c'est ça ?
Il faut retrouver les gestes du passé pour pouvoir les enregistrer au plus juste. Donc aujourd'hui, un peu à l'image de nos collègues suisses, d'où je reviens, j'étais la semaine dernière, eux, ils me qualifient de archéologue du patrimoine sonore. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai orienté une partie de mes travaux sur la sensorialité des métiers de l'artisanat et leur conservation. Donc là, on est en plein dans le patrimoine culturel immatériel. Et pour enregistrer ces artisans, on fait des enregistrements dits aériens, c'est-à-dire à l'extérieur, au plus proche des gestes, mais aussi sur la matière, pour entendre l'évolution du geste et la modification de la matière au moment où elle est façonnée.
Par exemple, comme en taille-pierre. Hélène Pardoen.
Oui, tout à fait. Donc là, on a, pour avoir la totalité, voilà, là, on est dans la matière. Alors qu'avant, on était plutôt en prise aérienne, à l'extérieur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a besoin de tous ces éléments-là quand on va travailler sur la sensorialité des métiers de l'artisanat. Parce que l'artisan, quand il travaille, il a une partie des informations qui passent par conduction osseuse. Nous, on va essayer de la récupérer comme on peut, cette conduction osseuse. Donc, on blinde de micros tout autour de l'artisan, à la fois parfois sur ses mains, on arrive à glisser des tout petits micros qui font 1,5 mm, qu'on positionne pour avoir le geste au plus près. Je perche aussi, donc je perche à quelques centimètres. Donc s'il faut, comme on n'arrête pas l'artisan, s'il faut percher pendant une heure, je vais percher pendant une heure. Donc suivre le geste de l'artisan pour qu'il soit complet. Pourquoi ? Parce que c'est pas linéaire, c'est comme l'histoire de l'acoustique de la caverne, on peut pas modéliser. On peut prendre qu'au plus proche, parce que comme on le dit, c'est du temps, de l'espace et de l'espace-temps. L'artisan, il peut rencontrer sur son parcours de taille un accro dans la matière. Ça va modifier son geste, ça va modifier également la couleur sonore. Soit il va changer d'outil, ou alors on arrive en fin de parcours, il est un peu fatigué, il n'aura pas tout à fait le même rythme. Mais tous, sans exception, ils ont une signature sonore. Je travaille sur le chantier de Guédelon, mais quand on a certains artisans qui travaillent, ses collègues disent « Ah, mais ça, c'est Stéphane qui a la taille. Ah non, là, c'est Charles. » Ils l'entendent, ils savent la signature sonore.
Le chantier de Guédelon, en effet, le château médiéval de Guédelon, en ce moment, ça, c'est votre nouveau terrain de jeu actuellement.
Oui, parce qu'on a déjà, on nous a ouvert les portes pour pouvoir rentrer et avoir accès à toutes ces pratiques. Et puis, bah, c'est aussi un terrain de jeu parce qu'il y a énormément de métiers. Donc, le tailleur de pierre, l'écarisseur, le menuisier. On a des métiers qui sont moins bruyants, parce que je me souviendrai toujours de ma première arrivée sur le chantier. Tous les tailleurs, les forgerons, tout ça, on fait du bruit, puis il y avait des métiers. Hein. Non, mais alors moi je tresse l'osier, je fais pas de bruit. Moi, je suis peintre, je fais pas de bruit. Aujourd'hui, on leur a démontré que tous, ils ont une signature sonore, sans exception. Donc, on va capter le moindre bruit de tous ces métiers. Le plus petit bruit que l'on a pu capter à ce jour, c'est le bruit de la combustion du hood. Donc, ça fait pas beaucoup. Non, il y a pas d'exemple. Mais ça fait pas de bruit. Mais nous, on a réussi à capter cette combustion. On entend les petites bulles de résine qui éclatent.
Qu'on entend là tout de suite, à peine si vous tendez vraiment l'oreille. Mylène Bardoen, pour mettre l'archéologie des paysages sonores un peu en perspective, est-ce qu'on peut dire que cette discipline, cette problématique permet l'émergence de nouveaux axes d'étude par le biais de la sensorialité ?
Alors, je pense qu'on est au tout début d'une ouverture vers ces sciences de la sensorialité. Alors, nous, on travaille sur les aspects sonores, mais vous avez les aspects olfactifs qui sont importants, et j'ai des collègues qui travaillent justement sur tous ces aspects-là, que ce soit l'étude dans le passé, là aussi, des odeurs, mais aussi l'étude de cette restitution, voire cette reconstitution d'odeurs. Donc, par exemple, quand on va sur le chantier de Guédelon, on y va à plusieurs équipes de chercheurs, et on a avec nous un nez qui va immédiatement après la coupe de la taille de l'arbre, il va se précipiter pour sentir. Et puis on a des fois des drôles de définitions. Ah, ça sent la banane et le Coca-Cola. Bon, pour moi, ça sentait le chêne, mais bon, voilà, les références. C'est toujours les clés de lecture de ce sens qui est très personnel. C'est quelque chose de très, très personnel.
Sybille Desmérites.
Oui, alors c'est vrai que l'archéologie sonore est en plein boom, je dirais, depuis maintenant presque 10 ans, peut-être un peu moins. L'archéologie sensorielle aussi, hein, que c'est difficile de séparer l'un de l'autre. Le travail aussi de l'artisanat, ça ouvre effectivement des pistes, puisque moi je travaille sur une période bien plus ancienne qui est l'Égypte. Et parmi les sources qui sont à notre disposition, il y a les vestiges archéologiques des instruments de musique qui posent effectivement toute la question du savoir-faire, non seulement pour faire un objet qui va bien sonner, mais qui soit aussi ergonomique, qui soit aussi doux à toucher, etc.
Sybille Desmérites, vous travaillez aussi sur le paysage sonore, mais avec une approche plus musicologique, basée surtout sur les instruments et sur leurs pratiques, et surtout à une époque très très lointaine, l'Égypte ancienne. Reste avec nous, on remet le son.
J'adore. Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens et de temps en et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son.
Luxor, j'adore, de Philippe Catherine en direct sur France Culture, car on remet le son des environnements du passé, et notamment ceux de l'Égypte antique. On tend l'oreille avec nos deux invités du jour, Mylène Bardoen, archéologue du paysage sonore, ingénieure de recherche au CNRS, à la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Etienne, créatrice et coordinatrice du projet Héphaïstos, et avec Sybille Desmérites, égyptologue chargée de recherche CNRS, au laboratoire Histoire et Sources des Mondes Antiques, et ancien membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Sybille Desmérites, mérite. Vous aussi, hein, cela, vous avez commencé par la musique. Votre thèse, soutenue en 2005, portait sur les musiciens de l'Égypte ancienne, leurs titres et leurs métiers, des origines à la fin du Nouvel Empire. Vos premiers travaux portaient sur le rôle de l'ouïe dans la religion égyptienne, c'est bien ça?
Tout à fait. En fait, j'ai commencé par la perception auditive. Alors, à l'époque, c'était dans les années 2000, enfin 1995 exactement, si je me souviens bien. Justement, j'avais travaillé en fait sur tout ce qui était comment les anciens Égyptiens essayaient de rentrer en contact avec les dieux qui n'étaient pas visibles parce que cachés dans leur temple, justement par l'ouïe. Et ils ont développé tout un système de piété populaire, que ce soit par des stèles aux oreilles, où on invoque l'audition du dieu, par exemple, pour rentrer en relation avec lui par un autre biais, puisque la vue n'était pas, enfin, l'accès au temple n'est pas autorisé, en fait. Puis après, je me suis intéressée aux musiciens de l'Égypte ancienne. Donc, j'avais l'impression de rentrer dans une matière plus concrète, puisque justement musicale, et que pour moi, la musique, c'est quelque chose, une notion qui était clairement établie. Et c'est là où, ça a été extrêmement prometteur, parce que je me suis rendu compte que la manière de décrire la musique et les musiciens par les anciens Égyptiens, à partir des textes, par des études lexicales, ne correspond pas du tout à notre manière à nous de concevoir la musique. L'ethnomusicologie m'a beaucoup aidée, hein, puisque finalement les ethnomusicologues le disent depuis longtemps, que c'est pas un terme universel, la musique. Même s'il y a des pratiques musicales et chorégraphiques partout, chaque culture va avoir une définition qui lui est propre. Et c'est tout à fait vrai pour les mondes anciens. À partir de là, il s'est trouvé que chez deux collègues avec lesquels j'avais déjà travaillé, Alexandre Vincent et Sylvain Perrault, qui ont été chacun recrutés, l'un à l'école française de Rome et l'autre à l'école française d'Athènes. Et Alexandre Vincent, lui, avait travaillé sur les musiciens militaires dans le monde romain et avait envie de poursuivre sur les sons. Et on a proposé donc un programme de recherche sur les paysages sonores de l'Antiquité en comparant le monde grec, le monde romain et le monde égyptien, qui a donné lieu à une première table ronde qui a été publiée en 2015 sur le paysage sonore de l'Antiquité, où on a essayé de dire ce que pour nous signifiait cette notion et comment justement étudier ces paysages sonores antiques à partir de quelles sources. Et il y a donc trois sources qui nous ont semblé absolument essentielles. Tout d'abord les textes, puisqu'on a la chance, nous, de disposer des textes où les anciens nous expliquent eux-mêmes la manière dont ils perçoivent et décrivent les sons. Ensuite, tout ce qui est les instruments de musique, puisqu'il se trouve qu'on a des représentations iconographiques, mais aussi des vestiges archéologiques. En plus de ces instruments de musique, on peut aussi parler, par exemple, des fois, on a trouvé dans une fosse au Soudan, dans une forteresse, 700 céramiques brisées avec un percuteur volontaire, une céramique qui était apportée là. Donc on voit bien, là, que c'est pour faire du bruit, c'était dans un rituel magique contre les ennemis. Donc c'est une autre manière d'aborder les paysages sonores. Et enfin et surtout, les lieux importants où ont lieu ces manifestations sonores. Et
justement, à propos de lieux, on peut parler de votre projet d'archéologie acoustique au temple de Dendera, qui comprend une véritable interrogation sur l'usage du son à l'intérieur de ce temple. Qu'entendait-on à l'époque? Ça, c'est très difficile de pouvoir répondre à cette question.
Alors, c'est là un des aspects qu'on n'a pas tellement évoqué jusqu'à maintenant, mais on peut aussi concevoir, et nous c'est notre cas, l'archéologie sonore n'a pas forcément pour objectif de donner, à reconstituer, à faire entendre un son. Notre matériau, il est ancien. Donc, on va essayer d'aborder, en fait, le son à travers d'autres biais pour comprendre les usages culturels qu'on pouvait en avoir. Et le temple de Dendera, d'abord, c'est un temple qui est dédié à la déesse Hathor, qui est très bien conservé. Donc, justement, on en a parlé par rapport aux grottes, à quel point le ressenti physique d'un espace est important. Et effectivement, dans un temple, quand on rentre dans le temple de Dendera, comme on rentrait avant dans Notre-Dame, on avait un ressenti physique de l'espace sonore.
Justement, en 2021, vous avez capté l'empreinte sonore sur place de ce temple, qui est donc dédié à Hathor, la déesse de la musique. On écoute cette captation, c'est l'ambiance sonore du temple de près. Et là, Sybille Emérite, vous parliez justement de l'importance du ressenti sonore d'un temple.
Alors, je veux tout de suite revenir sur cet exemple qu'on a passé. En fait, on a surtout cherché avec Olivier Varusfeld de l'IRCAM, qui est acousticien, à relever l'empreinte sonore du monument, puisque j'avais remarqué un ressenti, et que dans, si vous voulez, le temple égyptien est formé de deux espaces. Il y a un sanctuaire qui est complètement fermé, et devant, vous avez une sorte d'immense vestibule, hein, parce que c'est un temple qui est immense. Il fait 86 mètres de long, 43 mètres de large, 17 mètres de haut. Et le vestibule lui-même, à 17 mètres sous hauteur, présente des particularités que je voulais mettre en évidence, qui est d'abord, il y a 24 colonnes, que c'est un espace semi-ouvert, c'est-à-dire que quand vous êtes face au temple, donc face à ce pronaos, vous avez des murs d'entrecolonnement avec des espaces ouverts au-dessus qui permet au son de sortir. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce pronaos, qui est une sorte d'espace avant le sanctuaire, qui sont les appartements du dieu, et cet espace qu'on va dire qui sert d'interaction entre les hommes et le divin, il y a une procession de musiciens qui est représentée en bas des colonnes. Donc on n'est pas du tout dans la restitution sonore, c'est parce que comme on a besoin de faire écouter la réverbération de cette salle, j'ai choisi avec Olivier Varusfeld de prendre un enregistrement que j'ai fait totalement ailleurs, hein, à la Libella en Éthiopie, que là on entend une liturgie matinale, que j'ai trouvée intéressante par rapport au temple de Dendera pour plusieurs raisons. C'était une scansion, c'était un moment rituel, et que dans les objets qui sont utilisés, que vous entendez, il y a des tambours et des sistres. Il se trouve que dans les musiciens qui sont représentés dans le temple de Dendera, vous avez des instruments à cordes, là qu'on n'a pas dans l'enregistrement, des tambours et des sistres. Alors, il y aurait deux démarches possibles. Soit ce serait d'essayer de retrouver des vestiges archéologiques en assez bon état pour les faire sonner, les enregistrer en salle anéchoïque et les faire jouer. Ou soit, de ce que j'ai fait là, c'est le choix ethnographique. Parce que, disons que moi, c'est une pratique religieuse, rituelle, vivante. Bon, je dirais que pour moi, encore une fois, ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est de comprendre, puisque à cette époque-là, il n'y a pas de théorie de l'acoustique qui est connue, c'est si ces monuments ont été faits pour amplifier le son ou pas. C'est ce qu'on essaye d'entendre avec... Alors, le son qu'on a entendu, juste pour réexpliquer, on va cette fois-ci l'écouter de nouveau, mais en utilisant la réverbération du pronaos. Donc d'abord, on va l'entendre à l'intérieur, à deux endroits, puis ensuite à l'extérieur. Et on se rend compte que les personnes qui restaient à l'extérieur, qui ne pouvaient pas accéder en temple, pouvaient entendre ce qui se passait en restant devant le monument.
Et bien, tendons l'oreille à nouveau. Sibylle Aimé, vous évoquiez à l'instant le sistre, qui est un instrument à percussion. Côté justement reconstitution d'instruments de musique de l'époque, ça c'est aussi un processus qui est très compliqué.
C'est très compliqué parce que tout d'abord, les vestiges ne sont jamais complets, enfin rarement complets. Ensuite, c'est très difficile, vous imaginez, dans les musées, de proposer de les secouer pour les enregistrer. Je pense que c'est quand même rare que de trouver des conservateurs de musée qui acceptent. Et de toutes les façons, ce que je dis aussi souvent, c'est comme c'est des instruments, on ne sait pas de quelle manière ils étaient joués, à quel rythme, etc. Donc, il nous manquera toujours un aspect, une dimension. Mais néanmoins, aujourd'hui, il existe plusieurs technologies. Enfin, déjà, on a une observation fine des vestiges archéologiques. Et soit vous essayez de travailler avec des luthiers, par exemple, pour un cordophone, ou alors vous pouvez faire appel aussi aux restitutions virtuelles d'instruments anciens, ce qui permet d'essayer de combler au maximum les zones qui ont disparu. Alors c'est plus facile pour les instruments avant, et c'est un travail par exemple qui a aussi été fait avec l'IRCAM pour les trompettes romaines de la gladiature avec Christophe Vendry et René Cossé.
Oui, bah, ça veut dire que ces collaborations chercheurs-luthiers, c'est quelque chose d'essentiel au cœur de votre démarche?
Complètement. En fait, de mon point de vue, on peut pas travailler sur le son sans des collaborations interdisciplinaires où chacun va apporter sa spécialité, sa connaissance,
ouais, du matériau sonore. On est vraiment sur des transdisciplines hybrides. Maintenant, on est obligé. On peut plus En tout cas, nous, on ne peut plus rester dans notre précaré et pas s'ouvrir aux autres, tout comme les autres ont besoin de nous, puisque, par exemple, là, pour cette restitution de temple, on est vraiment dans le schéma que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est le volume acoustique, avec toutes ses caractéristiques, on est bien sur le flacon de cristal. Il a fallu mettre quelque chose à l'intérieur pour le faire vibrer, pour le faire chanter, ce volume acoustique. Donc, soit on fait comme moi, on va à la pêche aux objets sonores, puis on va restituer. Soit on s'appuie sur d'autres travaux qui peuvent être similaires. Plus on remonte dans le temps, plus la part d'hypothèse et de travail elle est grande. Il faut pas se leurrer. Hein. Moi, je travaille sur Notre-Dame en 1170. La part d'hypothèse, elle est grande. Elle est sans doute moins grande que pour l'Égypte. Mais je travaille pour, par exemple, les périodes gallo-romaines. Oui, il y a une part d'hypothèse.
Alors comment justement l'archéologie sonore peut-elle guider le chantier de reconstruction de Notre-Dame? Comment cette discipline participe-t-elle à la conservation du patrimoine immatériel? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture avec Mylène Pardoen et Sybille Emérite, nous parlons d'archéologie sonore, cette transdiscipline hybride. L'archéologie du paysage sonore s'attelle aussi à la reconstitution des environnements d'édifices détruits, comme Notre-Dame de Paris, qui a été donc détruite par l'incendie en avril 2019. On en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes allée au laboratoire Jean Rond d'Alembert à Sorbonne Université pour comprendre comment l'acoustique s'avère être un outil précieux dans le chantier de restauration de la cathédrale.
Et oui, tout juste 5 ans après l'incendie, les travaux de reconstruction ont bien avancé. Parmi eux, la restauration par l'approche acoustique s'est révélée très prolifique, notamment avec les travaux menés par votre collègue acousticien Brian Katz. Depuis une dizaine d'années, déjà, son équipe documente l'acoustique du site. En 2013, par exemple, ils avaient enregistré un concert, l'Oratorio de la Vierge de Massenet, dont les données croisées avec celles de l'architecture physique ont permis de reconstruire une jumelle numérique de la cathédrale, un modèle précis et réaliste qui s'avère précieux pour guider le chantier de reconstruction.
Là, c'est un exemple entre le concert qu'on avait enregistré avant l'incendie, avec le vrai prise de son avec des micros au-dessous du chef d'orchestre, et la simulation de la même concert avec le modèle. Donc là, on peut comparer les deux. Donc ça, c'est le vrai. Avec des microphones placés proches de chaque musicien, et on réinjecte ces prises de son dans le modèle numérique avec encore le microphone, cette fois-ci virtuel, au point du chef d'orchestre.
Je ne saurais pas...
Il y a certaines nuances qui sont évidentes si on écoute bien. Ouais.
Dans le chant
Oui, dans le chant plutôt du soloiste qui est plus clair dans un que l'autre. Donc à la suite de l'incendie de Notre-Dame il y a 4 ans, en avril, on commence à discuter et on entend des discussions autour de qu'est-ce qu'on avait perdu. Et on a été sollicité par plusieurs personnes qui ont dit qu'il y a une crainte qu'on avait perdu l'acoustique assez notable de Notre-Dame. En connexion de ça, on avait fait 2 choses. Avec Mylène Pardoen, on avait créé le groupe acoustique et paysage sonore qui fait partie du chantier scientifique de Notre-Dame. Et en parallèle, j'avais piloté le dépôt de plusieurs projets de recherche côté national et international sur toute l'histoire de l'acoustique de Notre-Dame, passé et futur. Et la recherche qu'on avait fait avec des chanteurs, c'est un chœur qui a déjà chanté à Notre-Dame. Donc eux, on peut demander, quand ils sont en situation d'expérience au laboratoire, est-ce que ça sent comme vous vous souvient? Ils disent oui, ça
marche assez bien.
C'est réaliste et c'est ça qu'on cherche. Pas le meilleur son, mais le plus correct. Donc ça, c'est les quatre chanteurs qui sont en train de chanter de quelque chose dans l'acoustique virtuelle de Notre-Dame.
Ils sont dans une sorte de chambre anéchoïque.
Oui, ils sont dans la chambre anéchoïque à Jussieu, qui est très large. Et avec ça, on peut avoir vraiment que le son des chanteurs totalement isolés, avec des casques très ouverts. Ils peuvent entendre leur chant normalement, mais l'effet de la salle est joué sur les casques, sans perturbation de l'écoute naturelle de leur chant. Et là, la doctorante qui travaille sur ce projet, Sarah Beth Mullins, elle a enregistré et aussi filmé des gens pour voir si, par exemple, il y a un changement de posture ou manière de communiquer non-verbalement entre des chanteurs si l'acoustique vient de plus en plus difficile, par exemple. Et donc, toutes ces analyses sont en cours, mais c'est assez prometteuse pour une manière un peu, on a dit, Experimental Virtual Archaeoacoustics. Archéologie expérimentale, qui est un peu le château de Gaudelin, qui est cette idée de, on essaie de recréer quelque chose et on apprend des nouveaux connaissances. Là, on essaie de faire plutôt en réalité virtuelle parce que c'est plus facile, mais c'est la même manière, c'est de mettre des gens dans une situation plus ou moins réelle, mais d'une situation du passé et voir comment est-ce qu'ils ont réagi.
Oui, parce qu'il n'y a pas que les dimensions et le volume qui agissent sur le son, mais aussi la nature des matériaux, sur leur tessiture, la texture, qui sont des composantes qui vont influer sur l'acoustique.
Donc dans l'acoustique de Notre-Dame, bon, il y a la majorité qui est la pierre. Le premier 100 ans de Notre-Dame, on voit des grosses modifications de l'architecture. Parce qu'il était ouvert juste le parti cœur, pendant que le reste est encore en construction. Et après, il s'était élargi, mais il n'y avait pas toutes les chapelles sur les côtés. Ça s'est ajouté encore 50 ans après.
Donc l'acoustique évolue en fonction de l'évolution architecturale de Notre-Dame.
Ouais. Il y avait le jubé à un instant, qui est un gros mur au milieu. La configuration des stalles des chanteurs a aussi changé. Mais après ce période-là, il y a beaucoup plus sur la question des décors et l'ajout du tissu, du texture, de tapisserie en fonction du festival, de l'événement politique ou religieuse. Et avec toutes ces modifications, on voit beaucoup de modifications de l'acoustique. Et l'idée, c'est de prendre ça en compte aussi et de voir les liens avec, par exemple, le changement de la place de l'orgue. Il y avait l'orgue de chœur, après il y a un orgue en hypothèse proche de la nef, et maintenant il y a le grand orgue de l'autre côté. Et quels sont les impacts de la choix de position dans son usage musical, religieux et politique? Donc on essaie d'avoir une vision assez large sur les modifications acoustiques et on essaie de recréer des exemples sonores de chaque période.
Merci Céline Lozen pour ce reportage. Sybille mérite une réaction à ce qu'on vient d'écouter.
Oui, alors déjà, je voudrais rappeler que ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne pouvait même pas le faire, je pense, il y a 5-10 ans, hein, oui. Même pas. Donc c'est vrai que c'est très important parce que ben, finalement, c'est un traumatisme, hein, cet incendie de Notre-Dame de Paris, mais ça permet aussi de développer des outils qui nous permettent aujourd'hui de retrouver l'acoustique de ces monuments. Et c'est ça aussi qui a permis d'appliquer cette méthode, entre autres à Dendera, parce que c'est un temple qui est incomplet. Et malgré tout, on peut, grâce à des microsphériques aujourd'hui, hein, qui ont énormément de capteurs, enregistrer en fait l'empreinte d'un monument, puisque le temple de Dendera aujourd'hui, il est ouvert, il est incomplet, il est ouvert aux touristes, les portes ont disparu. Et grâce à la modélisation 3D du monument, donc visuelle. Jusqu'à maintenant, en fait, la modélisation 3D concernait uniquement les aspects visuels des monuments. Et grâce à ces modélisations 3D là, qui est faite par l'équipe Archéovision, on a une modélisation du temple de Dendera dans lequel on va pouvoir ajouter le son et pouvoir bénéficier et circuler à l'intérieur de ces monuments et de se rendre compte de l'acoustique par nous-mêmes. Donc c'est quand même formidable aussi. C'est ça que je voulais rappeler, c'est que cette archéologie du paysage sonore, elle est aussi possible grâce au développement d'outils.
Oui. Grâce à la création de ce qu'on appelle les jumeaux numériques, qui nous permettent de quelque part de voyager dans le temps, dans l'espace et dans des lieux géographiques qui soit ont été abîmés, soit ont disparu, mais dont on a suffisamment de traces pour pouvoir les restituer.
Mylène Pardouhen, pour compléter le reportage qu'on vient d'entendre ensemble, vous aussi, hein, vous avez reconstitué les ambiances sonores du chantier de construction initial de Notre-Dame en 1170, puis celui de sa restauration en 1850, et vous êtes allé sur le chantier post-incendie, qui lui était très bruyant.
Alors oui, le chantier, si on pense à Notre-Dame, un lieu silencieux, non, il fait, c'est un vrai chantier de BTP, avec des outils, des machines-outils, au point que ça gêne les artisans actuels. Donc là, ce qu'on entend, c'est la restitution en 1170 de Notre-Dame. Donc c'est ce qu'expliquait Brian, c'est uniquement l'élévation du chevet. Les lieux sont complètement changés, modifiés. Il faut penser une île de la cité sans quai, sans berge. On est juste avec de la berge. La scène beaucoup plus proche de Notre-Dame. Et puis surtout, très peu d'accès pour apporter les matériaux. Et des gestes artisanaux typiques de l'époque médiévale.
Oui, donc en fait, il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure également. Hein. On a des témoignages, grâce à vos travaux, des témoignages sonores des gestes des artisans. Et ça, on peut dire que l'archéologie des paysages sonores, ça participe aussi à faire un acte de sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, on prend conscience de la sensorialité de l'ensemble des métiers, et notamment des métiers artisanaux. Parce qu'il est vrai que les métiers plus contemporains, où on a des machines qui vont très très vite, on va tout de suite se protéger les oreilles, parce qu'il y a des fréquences qui viennent nous les abîmer les oreilles. Hein, c'est un organe vivant. Mais les artisans, eux, ils travaillent avec leur sens. Ils sont obligés, puisque c'est une information. On a débuté sur ça. Donc ils ont besoin d'écouter leur travail. Et dans Notre-Dame, les artisans qui travaillent dans Notre-Dame actuellement, quand nous on est allés les enregistrer, ils nous ont dit on est aveugles des oreilles. Parce qu'ils sont obligés de travailler avec un casque anti-bruit et n'ont plus les repères audibles de la manipulation de leur outil sur la matière.
Il y a un autre projet, hein, toujours par rapport à cette question de patrimoine immatériel à sauvegarder, c'est le projet Chronospedia. Le temps court, mais on arrive à la toute fin de cette émission. Mais voilà, c'est la création d'une encyclopédie numérique des horloges et des appareils de mesure du temps qui tendent à disparaître.
Eh bien oui, parce que il n'y aura bientôt plus de formation sur l'horlogerie traditionnelle. Donc les derniers maîtres artisans ont décidé de sauvegarder ce patrimoine pour qu'il n'y ait pas de rupture de chaîne de transmission. Et rien de plus difficile de retrouver un geste quand il n'a pas été transmis. Et cette transmission, elle se fait à la fois par le geste, donc l'outil, quel outil, comment l'utiliser, mais aussi écouter. Et il faut plus de 10 ans pour un apprentissage sensoriel. Donc le but de tous les projets que je mène actuellement, c'est aussi pour, dans le cadre, de créer des interfaces de formation pour aider à ce passage de témoin.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette discussion. Comme chaque jour, on retrouve la chronique avec science avec Alexandra Delbeau dans quelques secondes. Pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditeurs à se procurer votre ouvrage, Sibylle Emérite, Orchestrer le passé, qui est paru aux presses universitaires de Paris-Nanterre. À présent, c'est Alexandra Delbeau qui nous parle d'alimentation ultra transformée et de diabète de type 2. C'est la chronique avec science.
Qui sont les responsables du lien entre alimentation ultra transformée et diabète? Possiblement les émulsifiants. Ce sont des ingrédients courants de l'alimentation ultra transformée parce qu'ils permettent de mélanger deux substances qui ne s'assemblent normalement pas, comme l'huile et l'eau, mais pas seulement. Ils servent aussi de stabilisants, de gélifiants, d'épaississants qui modifient l'apparence, la texture, voire la durée de conservation de certains aliments. Faites l'expérience chez vous, retournez votre boîte de petits gâteaux au chocolat, vous verrez peut-être un E322, les lécithines, dans votre frigo maintenant. De la gomme xanthane, E415 pour la mayonnaise. Dans votre congélateur, des carragénanes, E407 pour une bonne tenue de la crème glacée. Ce lien entre alimentation ultra transformée et diabète était déjà pointé du doigt. L'objectif à présent est de comprendre si les coupables se trouvent dans les additifs. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'INSERM, investigatrice principale de Nutrinet Santé et coordinatrice de cette étude parue dans le Lancet d'ailleurs. Diabetes and endocrinology.
Quand on parle d'aliments ultra transformés de manière générale, plusieurs études ont montré des liens avec le risque de diabète. On avait montré ça dans l'étude Nutrinet Santé il y a déjà quelques années et d'autres études dans le monde ont confirmé ces résultats. Concernant les émulsifiants, il y a depuis quelques années des études sur des modèles cellulaires, des modèles animaux ou même chez des humains, mais études à très court terme, qui montrent qu'une exposition à certains émulsifiants pourrait perturber le microbiote intestinal, favoriser une inflammation et ça, on sait que ce sont des paramètres qui, à plus long terme, pourrait jouer sur la santé. C'est pour ça qu'on a voulu, pour la première fois, grâce à l'étude Nutrinet Santé, étudier chez l'homme, chez l'humain, les liens entre l'exposition à ces émulsifiants et le risque de maladie à long terme.
Et la maladie en question ici est le diabète de type 2, à ne pas confondre avec le diabète de type 1 qui se développe jeune et qui est le résultat d'une absence de sécrétion d'insuline par le pancréas. Ici, le diabète de type 2 se développe le plus souvent après 45 ans, quand les cellules deviennent trop peu sensibles à l'insuline. Donc l'objectif est de voir si la consommation d'émulsifiants est associée au développement de cette maladie. Et pour cela, on ne peut pas faire d'essais cliniques. Pour des raisons éthiques évidentes, on ne peut pas donner des additifs à des cobayes humains pendant des années. En revanche, on peut regarder comment se nourrissent des volontaires et voir qui développe des maladies. C'est ce qu'on appelle une étude de cohorte en population générale. Et c'est ce qu'a fait la cohorte française Nutrinet Santé depuis 2009. Les 100 000 participants et participantes ont renseigné leur habitude alimentaire avec notamment la marque des produits pour remonter à la liste des ingrédients et à leur dose. Ensuite, ils ont été suivis pendant 7 ans en moyenne. Un millier d'entre eux ont développé un diabète. Résultat, il y a bien une association entre le risque de survenue de cette pathologie et la consommation de cet émulsifiant.
En l'occurrence les carragénanes, qui sont les E407, ou par exemple certains esters de mono- et diglycérides d'acide gras, donc E472, plusieurs gommes, gomme guar, gomme arabique, gomme xanthane, ou encore un additif qui s'appelle phosphate tripotassique ou du citrate de sodium. Ce qu'on observait de manière générale, c'était des relations qu'on appelle dose-effet, donc plus l'exposition à ces émulsifiants augmentait, plus le risque de diabète était accru. Donc pour donner un ordre de grandeur, pour les carragénanes par exemple, on observait pour chaque portion finalement supplémentaire de 100 mg par jour de ces émulsifiants une augmentation de risque de diabète de l'ordre de 3%. Ces incréments, ces doses-là qu'on observe, ce sont des doses qu'on retrouve de manière courante. Quand on dit 100 mg de carragénane ou bien 100 mg d'ester de monodiglycéride d'acide gras par exemple ou autre, on est dans des choses qui sont apportées comme par exemple par deux tranches de pain de mie ou de biscottes aux céréales qui contiennent ces additifs-là ou bien une portion de yaourt aromatisé ou de mousse au chocolat industriel. Voilà, c'est ce genre d'ordre de grandeur au quotidien qui apporte ces quantités pour lesquelles on voit ici des associations avec le risque de diabète.
C'est pour l'instant une association, bien sûr, mais c'est la toute première étude qui quantifie l'exposition aux émulsifiants avec le risque de diabète. Et c'est la troisième pathologie pour laquelle l'étude Nutrinet Santé a montré un lien avec la consommation d'émulsifiants après les maladies cardiovasculaires et les cancers. La suite, ce sera d'étudier en détail comment ces émulsifiants perturbent le métabolisme et surtout s'il existe un effet cocktail quand on mélange ces additifs.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de La Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Élise Leu.
Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.